Chapitre 8e. Elle passa une grande partie de sa nuit à réfléchir. Comment n'avait-elle pas vu, comment n'avait-elle pas compris que le vicaire l'aimait? Maintenant, les preuves de cet amour lui crevaient les yeux, aussi nombreuses que précises, et ses regards, tout pleins de tendresse qu'il fixait sur elle, et ses airs de brutalité contre elle qui, en réalité, étaient contre lui, alors qu'il voulait réagir contre sa faiblesse, et cette haine voulue et cette guerre acharnée par laquelle il tâchait de se défendre lui-même. Comme il avait dû souffrir, et combien violente devait être sa passion pour qu'il l'eût avouée. Sans doute elle était touchée de la situation de ce pauvre malheureux et de son désespoir. Rien n'était plus lamentable que la situation de ce prêtre déchu, qui jusqu'au jour où elle était arrivée à Ivranche, avait été un bon prêtre. Mais si grande que fût sa compassion pour lui, elle ne pouvait pas ne point penser à elle. S'il quittait Ivranche, comme le donnait à supposer ses dernières paroles, elle était débarrassée de lui. S'il restait, au contraire, elle n'avait plus rien à craindre, car après son aveu, il ne pourrait pas continuer la guerre contre elle, et sa grand-mère n'irait pas chez les dames de Saint-Joseph. En théorie, il semblait qu'un homme aussi violent que lui ne pouvait pas la revoir, après ce qui s'était passé entre eux. S'il agissait conformément à la logique de son caractère, il devait pousser les choses à l'extrême, comme il l'avait toujours fait, et quitter Ivranche pour n'y revenir jamais. S'il avait parlé, ça avait été certainement sous l'influence d'une force irrésistible et sans aucun espoir. Il avait dit qu'il aimait pour le dire, non pour demander qu'on l'aime à lui-même. Il n'était pas homme à rechercher les tentations, et puisqu'il n'avait pas pu la faire partir, il devait être résolu à la fuir. C'était là ce que disait la logique, mais dans des circonstances aussi cruelles pour lui, pourrait-il écouter la raison et suivre la logique? Elle n'avait point l'expérience des choses du cœur, mais elle s'imaginait que quand on aime, la logique et la raison doivent être bien faibles contre la passion. Tous les raisonnements étaient donc inutiles, et à l'avance il était impossible de prévoir ce que ferait le vicaire, il n'y avait qu'à attendre. Ce fut sur cette pensée qu'elle s'endormit vers le matin. Aussi, quand elle se réveilla, faisait-il grand soleil. Cependant, ce ne fut point l'éclat de la lumière qui interrompit son lourd sommeil, mais bien un bruit de grelots qu'elle n'avait point l'habitude d'entendre dans le lit. C'était celui des chevaux de la diligence de Fillette qui partait du Turc tous les matins à 7 heures pour aller à Condé. Sautant à bas du lit, Hélène courut à la fenêtre, croyant qu'elle se trompait, mais ce n'était point un rêve. La diligence attelée était devant la porte de l'auberge, et les voyageurs étaient groupés autour d'elle, attendant le moment de monter. Comme elle promenait les yeux machinalement sur la place, elle aperçut le vicaire qui venait de sortir de chez lui et qui, suivi d'un homme portant une malle, se dirigeait vers la diligence. Il partait donc. Elle revint dans sa chambre. Il partait. Tous ses raisonnements de la nuit étaient justes. Il l'aimait assez pour ne pas pouvoir rester à Ivranche. Le pauvre garçon. Comme elle suivait ses pensées tout en s'habillant à la hâte, une batterie de coups de fouet et un bruit de ferraille fit sonner ses vitres. C'était la diligence qui partait. Elle allait passer devant l'école. Sur l'impériale qui n'était point recouverte d'une capote, Hélène aperçut le vicaire. Justement, à ce moment même, il tenait ses yeux tournés vers ses fenêtres. Leurs regards se croisèrent, et l'abbé, portant la main à son chapeau, la salua tout bas. Puis, comme les chevaux détalaient grand train, elle ne le vit plus que de dos. Il ne se retourna pas, et bientôt la diligence disparut dans un nuage de poussière. Ce matin-là, elle eut plus d'une distraction, et pendant la classe à 2 reprises, elle s'arrêta pour dire « Où donc en suis-je ?» Cela ne s'était jamais vu. Et la petite Rosalie se pencha vers sa voisine pour lui dire qu'elle croyait bien que mademoiselle était malade. Vers 10 heures, la porte de la classe s'ouvrit toute grande et l'on vit entrer, majestueux, la canne à la main, le tricorne sur la tête, monsieur le curé. Instantanément, toutes les élèves furent debout, sans qu'Hélène n'eût rien à leur dire, et respectueusement, elles attendirent. « Mes filles, asseyez-vous, » dit le curé d'un ton bienveillant. « Bonjour, mademoiselle. » C'était la première fois que le curé entrait dans sa classe jusqu'à ce jour mis en interdit, et ce n'était pas sans une vive curiosité qu'Hélène se demandait ce qui lui valait cette visite. « J'espère que ces petites filles sont sages, » dit-il. « En général, je suis contente d'elles, » répondit Hélène. « Allons, c'est bien, c'est très bien. Nous allons voir comment elles travaillent. Et vous, petite là-bas, dites-moi, je vous prie, combien Jacob avait de fils ?»« 12. » « Très bien. » « Et vous, petite futée, quel était le père de Salomon ?»« David. »« Très bien. Persévérez, mes enfants, persévérez, et vous, mademoiselle, recevez mes compliments. Je suis heureux de voir que vous ne négligez pas l'enseignement de nos saintes écritures, qui sont le fondement de toute science. Voulez-vous les interroger sur l'histoire de France ? Demanda Hélène. Sur le calcul, la grammaire ? Non, cela suffit. Je suis très content. Et après avoir passé dans les bancs des enfants pour voir si leurs mains étaient propres, il se dirigea vers la porte suivie d'Hélène. Arrivé dans le vestibule, il s'arrêta et refermant lui-même la porte de la classe. « Vous avez vu monsieur l'abbé Périchard hier ? » demanda-t-il à mi-voix. « Oui, monsieur le curé. Que s'est-il passé entre vous ?» Cette question fit comprendre à Hélène que la visite du curé n'avait d'autre but que de la faire parler du vicaire, et cela la mit sur ses gardes. Ce qu'il s'était passé, elle ne pouvait pas le dire. « Nous avons parlé de ma grand-mère. Je le pense bien, mais après ?» « Comment, monsieur l'abbé Périchard, a-t-il accueilli votre demande ?»« Il m'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi ?»« Parce que monsieur l'abbé Périchard n'y a pas réellement répondu. »« A-t-il eu un mouvement de colère ? S'est-il laissé emporter ? Vous voyez que je vous parle franchement. Répondez de même. » Hélène se trouvait dans un cruel embarras. Elle tâcha de ne rien dire. « Mais en vérité, monsieur le curé, je ne peux pas porter de témoignage contre monsieur l'abbé Périchard. » « Vous comprenez que je dois me récuser. »« Et qui vous demande de porter témoignage contre lui ? C'est bien de cela qu'il s'agit. »« Il se passe une chose grave, mon enfant, mystérieuse, et ce que j'attends de vous, c'est de m'aider à l'éclaircir. »« Vous m'inspirez assez d'estime pour que je croie que vous ne me refuserez pas quand vous saurez de quoi il s'agit. »« J'ai reçu une lettre de M. l'abbé Périchard dans laquelle il m'annonce qu'il quitte Ivranches pour n'y revenir jamais et qu'il va entrer dans une mission d'Afrique. » Quelle est la cause de ce brusque départ ? Voilà ce que je cherche, afin de l'empêcher, si cela est possible, et c'est pour cela que je vous demande ce qui s'est passé entre M. l'abbé Périchard et vous. Malgré ses vertus chrétiennes, M. l'abbé Périchard se laissait quelquefois entraîner par la violence de son tempérament. Il allait alors beaucoup plus loin qu'il ne le voulait, et quand il revenait à lui, il faisait tout pour expier sa faute. S'est-il avec vous, mon enfant, laissé ainsi entraîner ? Et son départ est-il une expiation ? Voilà ce que je viens vous demander. Je suis convaincu que vous avez le cœur trop bien placé pour écouter la rancune et que vous n'hésiterez pas à m'aider à rappeler mon vicaire. » La question ainsi posée rendait la réponse d'Hélène plus facile. « Je n'ai aucun reproche à adresser à M. l'abbé Périchard, » dit-elle. « Ce n'est point à cause de vous qu'il quitte Ivranches ?» À cela, monsieur le curé, il m'est plus difficile de répondre. Peut-être M. l'abbé Périchard a-t-il reconnu qu'il avait des torts envers moi, et voyant qu'il ne peut pas me faire partir comme il m'en avait plusieurs fois menacé, peut-être se décide-t-il à partir lui-même, ne pouvant pas supporter ma présence. Alors je ne peux pas lui crier de votre part que vous seriez heureuse de le voir revenir. Oh, cela, non, monsieur le curé, cela ne serait pas vrai, car je ne peux pas être fâché de ce départ qui, je l'espère, va me donner la tranquillité. Il fallut que le curé se contentât de ses réponses. Quel scandale dans une partie d'Ivranches ! Quand on sut que la maîtresse d'école avait obligé le vicaire à abandonner la lutte qu'il soutenait contre elle, et aussi, quelle question ! Que lui avait-elle fait ? Que lui avait-elle dit ? C'était donc un démon ? Au contraire, d'un autre côté, ce fut un triomphe. « Voilà ce que c'est que la politique et la modération, » dit Bonneau. « La seule chose que n'y a, » conclut Pelledieu, « c'est que les sœurs sont savonnées. Il n'y a plus qu'à leur faire la barbe. »